Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. L'angoisse est le moteur de l'âme humaine. L'angoisse n'est pas la peur qui, elle, a un objet bien précis. Vous avez peur du noir ou vous avez peur du loup. L'angoisse, elle, est diffuse. Vous êtes angoissé sans savoir pourquoi. Vous n'arrivez pas à savoir ce qui vous angoisse. Et pour cause, l'angoisse, nous dit Sartre, n'est rien d'autre que la liberté prenant conscience d'elle-même comme étant son propre néant. Vous prendrez bien une petite tasse d'anxiété ?
Monsieur, s'il vous plaît, je vais être en retard au lycée.
Faites comme les copains, prenez le métropolitain.
Monsieur, je vous en prie, je n'arrive pas à avoir un taxi.
Bon, allez, montez, prenons le chemin des écoliers. Et vous prendrez bien une petite tasse d'anxiété avant de vous rendre au lycée.
Bonjour Philippe Cabestan.
Bonjour Adèle.
Bienvenue sur les chemins de la philosophie.
Merci de m'accueillir.
L'anxiété, c'est votre tasse de thé ?
Pas beaucoup, non, pas beaucoup. Je suis pas d'un naturel anxieux ou angoissé, mais c'était une bonne idée pour introduire Sartre et bien sûr cette thématique de l'angoisse. Alors Sartre dit plus précisément l'angoisse, et puis cette thématique donc de la psychanalyse existentielle. Même si le propos de Sartre n'est pas un propos directement, en tout cas thérapeutique. Et donc la question pour Sartre, quand il s'interroge sur les perspectives d'une psychanalyse existentielle, n'est pas premièrement de soigner l'anxiété ou l'angoisse plus exactement, pour la simple raison d'ailleurs que, dirait-il, l'angoisse fait partie de la condition humaine, on ne peut pas échapper à l'angoisse, donc il faut assumer cette angoisse, de même qu'il faut assumer notre condition humaine. Et donc vouloir soigner l'angoisse, ce serait un contresens, ce serait vouloir ne pas être homme, ne pas vouloir être libre, puisque comme vous l'avez dit, l'angoisse et la liberté, ça marche ensemble. On est angoissé parce qu'on est libre et qu'on prend conscience de cette liberté dans l'angoisse.
L'être et le néant est l'ouvrage qui nous accompagne cette semaine. C'est la troisième émission que nous proposons sur ce livre, publié en 1943. On trouve à la fin de l'ouvrage un chapitre qui s'appelle la psychanalyse existentielle. Il faut dire que jusque-là, il y a eu beaucoup de mises au point conceptuelles qui ont été faites. On a parlé depuis lundi de l'analyse de la mauvaise foi, notamment hier du vertige de la liberté, qui est l'expression du néant au sein de l'être, donc pour le meilleur et pour le pire, de la morale que l'on peut ériger sur cette liberté qui s'impose à nous. Nous sommes condamnés à être libres, nous dit Sartre. Et l'on trouve, si on arrive à la page 731 de L'être et le néant, car dans la nouvelle édition, c'était un volume assez imposant, ce chapitre qui s'intitule « Faire et avoir », la première partie, c'est la psychanalyse existentielle. C'est un peu surprenant de voir que Sartre va proposer quelque chose qui ressemble à une psychanalyse, car comme vous l'avez dit, que vise la psychanalyse si ce n'est, du moins, enfin, dans le meilleur des cas, à guérir, au moins à faire en sorte que l'on s'accommode de certaines données d'existence. Or, Sartre, jusque-là, ne laissait pas entendre un projet, disons, qui visait à accommoder l'homme avec sa propre existence. C'est même plutôt l'inverse.
Oui. On peut être effectivement un peu surpris par cette question de la psychanalyse existentielle qui est donc abordée en fin de volume, après des pages et des pages et des pages. Alors, si on a eu la patience de tout lire, on comprend aussi que c'est le prolongement direct, il le souligne lui-même, de son entreprise ontologique. Puisque on a donc l'être et le néant, un essai d'ontologie. Alors, on dit d'ontologie phénoménologique. Il s'agit de s'interroger tout simplement sur l'être de l'homme, de décrire ses structures fondamentales. Et puis, dans le prolongement de ce projet, donc d'une ontologie, Sartre va développer un projet qui lui tient à cœur, et qui lui tient à cœur, je dirais, avant d'écrire L'être et le néant. C'est ce projet de psychanalyse existentielle. On en trouve des traces déjà dans ses carnets de la drôle de guerre. C'est tout à fait étonnant.
Rédigé avant L'être et le néant, au début de la Seconde Guerre mondiale.
Exactement.
39-40,
il rédige ses carnets de la drôle de guerre. Et déjà, on trouve une esquisse, une interrogation sur la possibilité d'une psychanalyse existentielle. Donc c'est un projet, et c'est un projet qui va habiter Sartre jusqu'à la fin de sa vie. On va le voir justement au cours de cette émission, puisque lorsqu'il rédige Le Flaubert, donc L'idiot de la famille, dans les années 70, au début des années 70, eh bien c'est toujours ce projet d'une psychanalyse existentielle qui l'habite et qui trouve ses racines théoriques, son fondement, dans l'essai que constitue l'être et le néant, c'est-à-dire dans cet essai d'ontologie. Il faut bien comprendre que pour Sartre, il y a un lien très très étroit entre ses recherches ontologiques sur l'être de l'homme, sur les structures de l'existence et la psychanalyse existentielle. Et cette psychanalyse existentielle ne serait pas possible indépendamment, en tout cas dans l'esprit de Sartre, indépendamment de l'essai d'ontologie phénoménologique.
Pourquoi reprend-il le terme de psychanalyse, alors qu'il est un terme évidemment connu à l'époque, tout le monde sait ce que c'est que la psychanalyse, mais qui a pour postulat premier l'existence d'un inconscient? Oui. Or, pour Sartre, il est très clair que si psychanalyse il peut y avoir, celle-ci est basée sur la conscience et non pas sur l'inconscient.
Oui. Alors, là, il y a plusieurs aspects. Je dirais d'abord que ce qui l'intéresse dans le projet de Freud, et il y a un rapport de, on pourrait presque dire, de rivalité mimétique peut-être, si on voulait chercher cette expression de Girard, il y a un rapport de rivalité en tout cas avec Freud, parce que ce qui intéresse Sartre dans la psychanalyse freudienne, on va dire, c'est bien sûr, c'est pas l'inconscient, mais c'est le projet de comprendre une personne singulière, une personnalité, dans sa singularité, et je dirais dans ses moindres gestes. Et là, alors chez Freud, c'est parfaitement illustré, par exemple, dans son essai de psychopathologie de la vie quotidienne, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, puisque Freud, là, s'interroge sur des gestes qui paraissent insignifiants, et qui, pour Freud, ont un sens, une signification. Et alors, ça, c'est une idée qui intéresse beaucoup Sartre, parce que le projet de Sartre, c'est de parvenir, et il va y consacrer des heures et des heures et des tonnes de papier, c'est de parvenir, en fait, on pourrait dire presque, à tout dire d'une personne singulière, de la comprendre en profondeur, de telle sorte que, in fine, on parvienne comme à lire à livre ouvert en elle.
Et là, il essaye de faire avec Flaubert.
Alors c'est ce qu'il essaye de faire là, et puis il essaye déjà ça avec Baudelaire, bien sûr, juste après. Et puis avec, alors il y a entre les deux, il y a Mallarmé, mais c'est pas publié. Et puis surtout, il y a ce livre magnifique qui me semble même peut-être plus intéressant que le Flaubert. C'est ce livre sur Jean Genet, comédien et martyr.
Ce sont des gens, si on prend l'exemple de Flaubert, qui, par définition, auquel il ne peut pas parler, c'est-à-dire il veut tout savoir sur quelqu'un, mais à partir de ses écrits.
Oui, alors.
Drôle de psychanalyste, voilà, qui ne laisse pas la parole au patient.
Voilà, c'est une particularité. Bon, Sartre est un homme de lettres, c'est un écrivain, et il s'intéresse, comme par hasard, à des écrivains. Et effectivement, alors, avec, dans le cas de Jean Genet, je crois que là, on a un cas un peu particulier, parce qu'il a dialogué longuement avec Jean Genet, et je crois qu'il s'est, il a beaucoup appris aussi de Jean Genet sur le monde de l'homosexualité, sur aussi sur la poésie, sur, enfin, et donc là c'est un cas un peu particulier. Mais fondamentalement, cette psychanalyse existentielle, elle peut s'appuyer sur les traces, toutes les traces au sens large du terme que laisse une personne, un individu. Et donc, il y a ces textes, mais il y a aussi les éléments biographiques, les événements de son existence, bref, tout peut servir à percer le mystère de la personne. Cette singularité qui est au monde et qui a une manière tout à fait, et là j'insiste sur ta description, une affaire singulière, c'est ça. C'est que il y a bien sûr des structures générales de l'existence, on est tous condamnés à la même condition humaine, donc il nous faut tous mourir, il nous faut tous vivre avec les autres, qu'on soit riche ou pauvre, mais il n'en reste pas moins que vous soyez riche ou pauvre, jeune ou vieux, votre personne est une personne singulière, et il s'agit donc de saisir, de capter cette singularité, cette libre singularité.
On pourrait même aller jusqu'à dire que pour Sartre, il n'y a pas de problème plus intéressant, philosophiquement parlant, que celui de savoir comment chaque individu, chaque être singulier s'empare de ce problème qu'est l'existence et qu'est la liberté, en fait.
Oui. Et il s'agit à chaque fois d'une manière singulière d'assumer, de s'emparer de l'existence, d'assumer son existence et d'assumer ce qui est au cœur de toute existence et que nous partageons tous, c'est ce que Sartre appelle le désir d'être. En termes plus techniques, le désir de l'en soi pour soi, c'est-à-dire tout simplement cette transcendance, ce désir d'échapper à la contingence, à sa propre contingence, à sa propre superfluité. Et donc ici, nous avons tous à assumer cette tâche. Alors, on s'en sort plus ou moins bien. Personne ne s'en sort vraiment bien. De toute façon, il n'y a pas vraiment de solution, puisque il faut affronter et renoncer à sauver son existence. Mais voilà, on a tous une tâche, on a ce désir d'être qui est en nous, et reste à chacun à choisir librement. Et là, on trouve bien sûr la liberté sartrienne, à choisir librement la manière dont il va, dont je vais, pour le dire à la première personne, dont je vais assumer mon existence.
Mais il y a quelque chose de très rassurant à lire ces pages de Sartre, parce qu'on se dit que nous sommes tous dans le même cas. Ce que nous vivons comme une angoisse qui nous est propre, hein, on est parti de l'idée de l'angoisse, on peut y revenir. Ces moments d'angoisse qui nous traversent, on se dit qu'ils sont absolument impartageables. Savoir que non seulement nous sommes plusieurs à les ressentir, qu'ensuite ils sont absolument constitutifs de notre existence, et qu'enfin, il y a peut-être un moyen, non pas de les conjurer, mais d'apprendre à vivre avec, c'est autant de bonnes nouvelles pour un lecteur.
Alors, bonne nouvelle, je sais même pas si on peut parler de bonne nouvelle. Je crois que là, il y a une tonalité propre, j'ai envie de dire, à l'existentialisme sartrien et peut-être plus largement à l'existentialisme. Je pense toujours à cette détermination de l'existence par Heidegger dans Être et Temps, l'existence est un fardeau. Et donc, la tonalité fondamentale, l'existence, c'est pas un cadeau, c'est pas une chance, mais c'est un fardeau, et c'est pas facile de vivre. Et effectivement, nous sommes confrontés tous, parce que c'est la condition humaine, nous sommes confrontés à l'angoisse de l'existence, à l'angoisse de la liberté, pour Sartre, et puis nous sommes confrontés à ce désir impossible, ce désir d'être, qui est, alors on va le voir, qui est au cœur de chacune des existences et donc au cœur de chacune chacun des essais de psychanalyse existentielle.
Alors on va prendre un cas particulier avant d'en arriver au texte peut-être plus théorique mais qui explique très clairement comment Sartre présente sa méthode psychanalytique de psychanalyse existentielle. C'est l'histoire de l'homme au magnétophone. Connaissez-vous cette histoire, Philippe Cabestan ?
Oui, ça me rappelle quelque chose d'assez précis.
Un patient qu'on va appeler A, qui s'appelle A, qui enregistre contre son gré son analyste, lequel l'a suivi de ses 14 à 28 ans, il a désormais 33 ans. Il vient revoir son analyste pour lui demander des comptes. Il va, c'est presque qu'on peut qualifier un passage à l'acte qui est très violent parce qu'il va contraindre le thérapeute, l'empêcher de partir, le forcer à écouter ce qu'il a à dire pour le rendre responsable. Il y a ici la volonté de renverser la relation de l'analyste au patient. Au nom d'arguments qui sont tout à fait recevables, ceci à la fois pour montrer le contexte dans lequel Sartre va proposer cette psychanalyse existentielle, qu'il y a une grande critique, même souvent féroce, qui est adressée à l'égard de la psychanalyse, et aussi, c'est aussi une voix singulière qui fait ce qu'elle peut pour essayer de s'accommoder de sa propre existence. Écoutez, attention, le son est un peu violent.
Allez, soyez gentils et asseyez-vous. Ne nous fâchons pas, vous allez voir, ça ne fera pas mal. Il ne s'agit pas de vous enculer. Allez, soyez calme. Asseyez-vous. Vous voulez pas vous asseoir? Restons debout. Donc, la coupure du pénis. Hein? N'est-ce pas? Mon père voulait me... Non, qu'est-ce que c'était encore?
Écoutez, pour le moment, vous n'êtes pas en état de discuter.
Mais si. C'est vous qui ne vouliez pas discuter. C'est vous qui n'êtes pas en état.
Je vous ai demandé de rentrer votre enregistreur.
Mais mon enregistreur, c'est pas une queue, vous savez. C'est un auditeur.
Tout à l'heure, vous avez commencé en parlant de faire face à mes fantasmes. J'aurais jamais pu faire face à quoi que ce soit. Vous m'aviez obligé à vous tourner le dos. C'est pas comme ça qu'on peut guérir les gens. C'est impossible. Puisqu'en fait, vivre avec les autres, c'est leur faire face. Qu'est-ce que vous vouliez que j'apprenne? Au contraire, vous m'avez désappris à essayer, le goût de même, d'essayer de vivre avec les autres. Ou d'affronter quoi que ce soit en face. Et c'est votre problème. C'est pour ça que vous mettez les gens comme ça, parce que vous ne pouvez pas leur faire face, et vous ne pouvez pas les guérir. Vous ne pouvez que leur refiler vos problèmes de père, dont vous ne sortez pas. Et de séance en séance, comme ça, vous traînez des victimes avec le problème du père. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? J'ai eu beaucoup de mal à comprendre, et à en sortir, et à me retourner.
Quelques mots d'abord pour éviter un malentendu probable. Je ne suis pas un faux ami de la psychanalyse, mais un compagnon de route critique. et je n'ai nulle envie et nul moyen d'ailleurs de la ridiculiser. Mais ce dialogue fera sourire. On se plaît toujours à voir Guignol rosser le commissaire. Personnellement, je ne le trouve pas drôle, ci pour l'analyste, ni pour le ci-devant analysé. Évidemment, celui-ci a le beau rôle, et je dirai tout à l'heure pourquoi je le trouve exceptionnel. Mais celui-là, c'est après tout tiré d'affaires sans gloire. Qui ferait mieux, à moins d'être judoka, mais sans désastre. Il n'a pas parlé. Pourquoi donc alors ce dialogue m'a-t-il fasciné? Eh bien parce qu'il met en lumière, avec une éblouissante évidence, l'irruption du sujet dans le cabinet analytique, ou plutôt le renversement du rapport univoque qui lie le sujet à l'objet. Jean-Paul Sartre va faire le choix de publier ce témoignage Philippe Cabestan dans la revue Les Temps Modernes en avril 1969. Il s'en explique parce qu'il, dit-il, ce texte de A nous a profondément divisés. Nous, c'est avec Pontalis et Pingot qui faisaient partie du comité de rédaction. D'ailleurs, Pontalis quittera la rédaction Les Temps Modernes peu de temps après. Est-ce dû à cet événement ou pas? Il est probable puisque Pontalis était lui-même psychanalyste. En tout cas, il est très intéressant de voir la critique que Sartre émet, enfin la critique, l'analyse qu'il émet de ce texte en disant « Mais je ne suis pas du tout un faux ami de la psychanalyse, mais un compagnon de route critique. Ce qu'on a entendu était au contraire quelque chose de très violent contre un psychanalyste. Mais était-ce vraiment contre la psychanalyse en général? C'est pas sûr. »
Oui, c'est un épisode qui est vraiment très intéressant. Alors, il est très daté aussi. On est en 1969, une année après 1968. On sait aussi que Sartre, c'est celui qui a écrit qu'on a raison de se révolter. On comprend que Sartre, recevant donc dans le cadre des temps modernes ce document, lui, soit favorable à sa publication. Effectivement, la question a divisé le temps moderne et le comité de direction, de rédaction s'est divisé. Ce qui me semble intéressant là-dedans, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de choses intéressantes, c'est d'une part la mise en question très simple que le patient fait... cette mise en question qu'il fait de la psychanalyse et du rapport thérapeutique. Le simple fait de tourner le dos, je trouve ça, c'est quand même fort de la part de ce patient. Mais c'est pas ça une relation humaine. C'est une relation humaine, c'est justement le face à face. Et tourner le dos, enfin devoir tourner le dos à celui qui est censé vous aider, non pas guérir, je dirais pas ça, pas vous. Personne ne prétend guérir, un médecin ne guérit pas, il soigne, c'est différent. Mais tourner le dos à celui qui est censé vous soigner est quand même déjà une attitude très très étrange et qui peut être mise en question. Et donc ce face-à-face, je le trouve très intéressant. Et ce qui était aussi très intéressant, c'est la manière dont Sartre se situe. Compagnon de route, évidemment, ça rappelle beaucoup de choses, puisque c'est aussi la manière dont il définit sa proximité et sa différence avec le Parti communiste. Il s'est toujours présenté comme compagnon de route et compagnon de route critique. Dans le cadre de la psychanalyse, il est vrai qu'il y a une proximité, mais je crois que dans l'être et le néant, pour revenir au texte lui-même, dans l'être et le néant, cette proximité est en fait un peu exagérée. Et que fondamentalement, Sartre, même si il dit qu'il partage un certain nombre de convictions avec la psychanalyse freudienne, en réalité, Sartre est très loin. Pourquoi? Parce que vous l'avez déjà dit, ce que refuse Sartre, c'est ce qu'on va appeler l'inconscient psychique. Et là, ça creuse un fossé considérable entre son anthropologie sa psychologie qui en découle, et puis la psychanalyse freudienne. Et là, évidemment, Sartre et Freud sont très loin l'un de l'autre.
Et d'ailleurs, il reproche directement à Freud, il dit « Pour revenir à Freud, je dirais que j'étais incapable de le comprendre parce que j'étais un Français nourri de tradition cartésienne, imbu de rationalisme, que l'idée d'inconscient choquait profondément. Oui. » Mais pas seulement cela. Aujourd'hui encore, il écrit cela quand il a 70 ans, donc bien des années après, « Je reste choqué par une chose qui était inévitable chez Freud, son recours au langage physiologique et biologique. » Le résultat, c'est que la façon dont il écrit l'objet analytique souffre d'une sorte de crampe mécaniste. Il réussit par moments à transcender cette difficulté, mais le plus souvent, le langage qu'il utilise engendre une mythologie de l'inconscient que je ne peux pas accepter.
Alors là, bon, là on rentre vraiment, on est vraiment au cœur de la question et de ce qui sépare Sartre de Freud. On peut l'exprimer de manière peut-être plus simple en disant que ce que Sartre reproche fondamentalement à la psychanalyse freudienne, c'est ce qu'il appelle alors sa crampe mécaniste, c'est-à-dire sa mécompréhension, sa méconnaissance de l'être de l'homme. Pour le dire très simplement, la conviction profonde de Sartre, qu'il emprunte, qu'il tire de la phénoménologie, et avant tout peut-être de Heidegger, de sa lecture de Heidegger, c'est que l'homme n'est pas une chose, l'homme n'est pas un mécanisme, l'homme n'est pas un composé de pulsions, mais c'est une liberté en situation. Et là, on a les deux concepts fondamentaux de l'être et le néant. Et alors, expliquer à un psychanalyste que l'homme est une liberté en situation, le dialogue n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que, précisément, Freud pose comme principe, c'est le déterminisme des phénomènes psychiques. Donc, on est dans une anthropologie qui est, je dirais, naturaliste, au sens où l'homme, pour Freud, est un être de la nature qui est soumis au principe du déterminisme des phénomènes de la nature. Et donc, les phénomènes psychiques sont des phénomènes qui sont déterminés par le principe de causalité. Et donc,
oui, mais si la liberté n'avait aucun lieu droit de citer en psychanalyse, alors la cure n'aurait aucun sens. Alors, on pose une liberté du patient en psychanalyse.
Alors, c'est
sinon, on le condamne.
Alors là, je dirais, c'est tout le problème de la psychanalyse, mais c'est plus le problème de Sartre.
Oui, évidemment. Mais c'est pourquoi peut-être Sartre, si c'est effectivement le reproche qu'il adresse à la psychanalyse, peut-être manque cette spécificité-là. Il n'y a, l'homme freudien n'est pas dénué de toute forme de liberté, qu'il soit déterminé, certes.
Il y a d'une part ce que dit la psychanalyse, ce qu'écrit Freud, et puis, effectivement, après, il y a la pratique thérapeutique postule à son tour la liberté et la possibilité pour un homme, un patient, d'assumer son existence et de changer d'existence. Donc, effectivement, on peut peut-être ici, d'un point de vue sartrien, opposer d'une part la doctrine, le naturalisme doctrinal, et puis d'autre part, alors ça c'est une opposition qui est très classique, et puis d'autre part, la pratique thérapeutique qui est obligée d'accepter l'idée d'une libération et d'une liberté de l'individu.
Alors voici comment Sartre propose, présente ce qu'il appelle la psychanalyse existentielle, et il emploie ces termes. Il dit « Le principe de la psychanalyse existentielle est que l'homme est une totalité et non une collection, qu'en conséquence, il s'exprime tout entier dans la plus insignifiante et la plus superficielle de ses conduites. Autrement dit, qu'il n'est pas un goût, un tic, un acte humain qui ne soit révélateur. Le but de la psychanalyse est de déchiffrer les comportements empiriques de l'homme, c'est-à-dire de mettre en pleine lumière les révélations que chacun d'eux contient et de les fixer conceptuellement. Son point de départ est l'expérience. Son point d'appui est la compréhension pré-ontologique fondamentale que l'homme a de la personne humaine. Bien que la plupart des gens en effet puissent négliger les indications contenues dans un geste, une parole, une mimique et se méprendre sur la révélation qu'ils apportent, chaque personne humaine n'en possède pas moins, a priori, le sens de la valeur révélatrice de ses manifestations, n'en est pas moins capable de les déchiffrer, si du moins elle est aidée et conduite par la main. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de l'être et le néant de Jean-Paul Sartre cette semaine. C'est aujourd'hui la troisième émission sur ce livre. Et nous parlons en particulier de psychanalyse existentielle, telle que la définit Sartre dans ce livre, en compagnie du philosophe Philippe Cabestan. Si je comprends bien ce texte, Philippe Cabestan, ce que propose Sartre, c'est une psychanalyse, certes existentielle, sans analyste et sans inconscient.
Sans inconscient, en tout cas. Sans analyste, alors, pas tout à fait. Sans analyste au sens thérapeutique du terme, puisque Sartre n'est pas un thérapeute. D'ailleurs, il ne prétend avoir aucune compétence médicale, c'est pas du tout son propos. Mais néanmoins, il souligne un point important, c'est que la psychanalyse existentielle est exercée, elle est élaborée du point de vue d'autrui. Et donc, c'est l'être tel qu'il apparaît, c'est l'existence telle qu'elle apparaît pour autrui. Ça, c'est un point important. Et donc, il oppose toujours, ça chez Sartre, c'est une distinction qu'on retrouve souvent, c'est le point de vue en première personne, le point de vue du pour-soi sur lui-même, la présence à soi, la conscience de soi, et puis le point de vue que l'autre peut avoir de moi. Et donc, la psychanalyse existentielle a cette particularité, c'est que il le dit lui-même dans ses pages qui suivent, dans les pages qui suivent, c'est que, en fait, je ne puis pas moi-même faire ma propre analyse existentielle, ou bien, et alors c'est ce qu'il va faire dans les mots, ou bien j'adopte le point de vue d'autrui sur moi. Et donc je me considère comme si j'étais autrui. Mais et là, il y a une dimension, donc d'une certaine manière, c'est pas une psychanalyse sans analyste. Mm-hmm. C'est bien le point de vue de l'autre, et ce point de vue d'autre que je puis adopter aussi sur moi-même. Et à ce moment-là, eh bien, j'essaye de déchiffrer mes propres conduites.
Voilà, il s'agit de déchiffrer ses conduites.
Et donc là, on a le terme « déchiffrer » est important. D'ailleurs, il est en italique dans le texte. Il est important parce que s'introduit l'idée d'une herméneutique. C'est-à-dire, d'un art de l'interprétation. Il va falloir interpréter, déchiffrer et dégager le sens, la signification profonde des différentes conduites. Alors, il y a cette formule que vous avez lue qui me semble tout à fait intéressante, qu'on avait déjà évoquée. C'est « il n'est pas un goût, un tic, un acte humain qui ne soit révélateur ». Alors ça, cette formule, je la trouve magnifique parce que, bien sûr, alors comme on l'a dit, ça rapproche Sartre de la psychanalyse. Mais ce qui est intéressant, c'est dès que le tout est dans la partie, mieux, le tout, la totalité de l'individu, de la personne, se retrouve dans le moindre de ses gestes. Il y a un exemple que j'aime bien prendre pour illustrer cela, c'est au fond, à partir, bien analysé, le sourire d'une personne me dit tout sur cette personne. Et donc, j'ai pas besoin de beaucoup d'autres choses. Alors, j'exagère, bien sûr, hein. Mais cette idée que la totalité de la personne est dans ses moindres gestes, que ça soit dans sa façon de se gratter, que ça soit dans sa façon de se laver, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de travailler, de faire l'amour, etc. Le tout est à chaque fois là. Et donc, si on analyse en profondeur un tic, un geste, quel qu'il soit, eh bien, il est possible de retrouver... Alors, ça, c'est un postulat qui est intéressant parce que c'est un postulat qui, en fait, va contre la psychanalyse. Au sens où il n'y a pas de division du sujet. Il n'y a pas un autre moi qui serait caché et qui dicterait... Oui, quand on prend le tic dans une perspective de la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud, le tic, il renvoie à un autre, à une autre scène. Ça, c'est pas du tout la thèse de Sartre. Et je dois avouer que cette thèse de Sartre m'a toujours séduit, au sens où cette idée...
Il y a peut-être une autre en vous. Hein.
Non, il n'y a personne d'autre en moi. Non, moi, j'ai pas de profondeur cachée. Je suis désolé.
Très bien, nous voyons. Dites-nous.
Il n'y a rien à cacher, rien à chercher. L'idée, c'est que, effectivement, je suis tout entier dans le moindre de mes gestes. Et au fond, c'est ce que on pourrait appeler avec Merleau-Ponty le style d'une personne. Chaque personne singulière a son style, et cette personne, en fait, dit tout d'elle-même, et nous la comprenons. Nous avons une pré-compréhension ontologique, dira Sartre. Nous avons une pré-compréhension de telle sorte que quand on la rencontre, au fond, on sait qui. Alors, on peut se tromper. On peut faire des erreurs d'interprétation, bien sûr. Mais on sait qui on a en face de soi.
Mais c'est très effrayant comme projet. Déjà, un, parce qu'il postule une totalité de la personne, comme si on pouvait faire la synthèse de tous nos actes en une unité. On pourrait quasiment appeler transcendantale. Il y a un « je » supérieur qui dit tout de ce que je suis. Or, nous avons vu les jours précédents que pour Sartre, justement, dire « je », la notion même de « moi » est compliquée, que le « moi » est toujours dissous dans l'existence. Alors, comment peut-il postuler la totalité d'un sujet ? Et ensuite, ce qui est effrayant, c'est de dire que, dans ce cas, on se trahit en permanence, que si le moindre geste dit tout de moi, alors, en effet, il n'y a aucune intériorité, il n'y a aucun secret, il n'y a aucun faux-semblant.
Oh, il y a des petits secrets, ne rassurez-vous. Vous avez, on a tous un misérable tas de petits, un petit tas de secrets, d'accord ? Mais je reviendrai sur l'idée de totalité.
Oui.
Parce que là, l'idée de totalité, c'est pas l'idée d'un ego. Sartre met cette conception de côté. C'est l'idée d'une liberté qui se choisit son être, qui choisit son mode d'être, qui choisit son mode de relation aux autres. Bref, une liberté qui choisit sa manière d'être au monde, d'une manière. Et ce choix d'une manière d'être au monde se retrouve dans le moindre de ses gestes ou de moindre de ça. J'ai un exemple que j'aime beaucoup.
Allez-y.
Que j'emprunte à l'essai sur Baudelaire. Souvent, on considère que cet essai sur Baudelaire est vraiment pas très réussi, que c'est un premier essai d'analyse existentielle un peu bâclé, etc. Il y a un élément que j'aime beaucoup, et là, Sartre a un culot incroyable. Il dit, voilà, je parie que Baudelaire préférait les viandes en sauce aux viandes grillées. Je suis sûr, alors j'avais pas la preuve, mais je suis sûr que Sartre n'a aucun document, aucun élément, aucune trace de cette préférence. Mais voilà, il sait que Baudelaire, c'est un dandy. Baudelaire, c'est un homme qui a horreur de la nature. Il a horreur du brut. C'est un homme raffiné. Il aime les règles, il aime tout ce qui est compliqué. Et donc, la cuisine, dans ses goûts culinaires, on va retrouver ce rapport à la nature, ce rapport à l'autre, ce dandysme. On va le retrouver de quelle manière? Et bien, dans cette préférence pour une nourriture élaborée, travaillée, les viandes en sauce, alors que la viande grillée, c'est le morceau de barbac, si je puis dire, qu'on jette sur le grill. Et donc ici, il y a deux rapports au monde très différents. Et on comprend bien comment Sartre, ici, peut... Alors, il s'amuse, il se lance. Je parierais que Baudelaire préférait les viandes en sauce aux viandes grillées. Il s'amuse. Mais il y a une logique profonde qui est très intéressante, c'est-à-dire que le tout de la personne, c'est-à-dire son choix fondamental, le choix fondamental de sa manière d'être au monde, se retrouve dans ses moindres gestes. Et c'est ce choix fondamental singulier, libre, qui va se retrouver dans ses goûts culinaires, qui va se retrouver dans ses rapports avec les autres, qui va se retrouver dans son rapport au travail, etc.
Si c'était le cas, nous serions tous des individus absolument cohérents et prévisibles. Or, c'est loin d'être le cas, empiriquement. Et nous sommes faits aussi de contradictions. Nous pouvons aimer telle chose dans tel domaine, aimer absolument son inverse, dire une chose, en faire l'inverse. Nous ne sommes pas cet être un et cohérent que Sartre semble décrire.
Je dirais pas cohérent. Parce qu'on peut se mentir, on peut tricher.
Oui, Baudelaire peut faire l'éloge du maquillage et de l'artificialité, et peut-être son palais le conduit-il vers des goûts beaucoup plus simples.
Oui, mais alors là, vous avez fait ce que refuse Sartre, vous avez dit son palais. Et alors là, ouais. Ça y est, on divise l'individu. Il y a son palais, comme une petite chose autonome, et puis son dandysme, etc. Non. Alors ça, je crois que cette idée, elle est très profonde chez Sartre. C'est l'idée que justement, la personne se retrouve dans chacune de ses parties. Et effectivement, cette idée, je dirais que, au fond, un siècle de psychanalyse nous a conduit à la refuser. Et pourtant, je dirais que dans nos relations humaines, on retrouve bien l'ami que nous aimons, la femme que nous aimons, ou l'homme que nous détestons, nous le retrouvons bien dans ce geste. Il est là, c'est lui. Et donc, il y a bien, sous-jacent à ce geste, une liberté en situation qui est, alors, qui peut changer aussi, qui peut effectivement, alors c'est toute la thématique de la conversion, de la temporalité, parce que c'est une liberté qui s'historialise, c'est une liberté qui a une histoire et qui peut aussi décrocher, prendre des décisions et changer. Et parfois, il y a des individus qui changent du tout au tout. Mais néanmoins, à ce moment-là, se met en place une nouvelle configuration. Mais il y a un homme qui est là, tout entier, dans chacun de ses gestes.
Est-ce que c'est pas Sartre qui, à ce moment-là, reconduit le déterminisme qu'il dénonce dans la psychanalyse ? Si tel tic dit tout de nous, alors c'est comme s'il y avait
un
déterminisme à
l'œuvre. Oui, mais c'est plus du tout un déterminisme, puisque c'est la liberté.
C'est un choix premier.
C'est un choix. C'est un choix premier.
Reste à savoir si nous choisissons d'avoir ce tic plutôt que tel autre.
Voilà. Alors, le tic, évidemment, ça peut sembler un peu étrange, parce que le tic, nous avons tellement, je dirais, l'interprétation freudienne du tic dans la tête, qu'on a du mal à rapporter un tic à la liberté.
Alors, on va prendre un autre cas particulier, cher à Sartre, cette fois-ci, qui est celui de Flaubert, auquel nous l'avons dit, il a consacré des milliers de pages qui seront publiées plus tard, bien après L'être et le néant. On trouve un passage dans L'être et le néant, toujours dans la psychanalyse existentielle, qui y fait référence. Il veut répondre notamment à un critique qui voulait essayer de proposer une psychologie de Flaubert, parce qu'il faut bien entendre que la psychanalyse n'est pas la psychologie. Et vous allez comprendre pourquoi en un instant. Ce critique voulait écrire, a écrit que Flaubert paraît avoir connu comme un état normal dans sa première jeunesse, une exaltation continuelle faite du double sentiment de son ambition grandiose et de sa force invincible. L'effervescence de son jeune sang se tourna donc, le donc est important, en passion littéraire, ainsi qu'il arrive vers la 18e année aux âmes précoces qui trouvent dans l'énergie du style ou les intensités d'une fiction de quoi tromper le besoin d'agir beaucoup ou de trop sentir qui les tourmente. On se dit, a priori, il fonctionne comme Sartre. À partir d'un indice, il dresse le portrait complet du personnage. Or, il n'en est rien. Sartre s'oppose en tout point à cette interprétation. Voici pourquoi.
On nous dit que Flaubert avait une ambition grandiose. Et toute la description précitée s'appuie sur cette ambition originelle. Soit. Mais cette ambition est un fait irréductible qui ne satisfait aucunement l'esprit. C'est que l'irréductibilité ici n'a d'autre raison qu'un refus de pousser plus loin l'analyse. Voilà, se dit-on, Flaubert était ambitieux, il était comme ça. Il serait aussi vain de se demander pourquoi il était tel que de chercher à savoir pourquoi il était grand et blond. Il faut bien s'arrêter quelque part. C'est la contingence même de toute existence réelle. Ce rocher est couvert de mousse, le rocher voisin ne l'est point. Gustave Flaubert avait de l'ambition littéraire et son frère Achille en était dépourvu. C'est ainsi. Ainsi désirons-nous connaître les propriétés du phosphore et tentons-nous de les réduire à la structure des molécules chimiques qui le composent. Mais pourquoi y a-t-il des molécules de ce type ? C'est ainsi, voilà tout. La psychologie de Flaubert consistera à ramener, si c'est possible, la complexité de ses conduites, de ses sentiments et de ses goûts à quelques propriétés, assez comparables à celles des corps chimiques et au-delà desquelles ce serait une niaiserie que de vouloir remonter. Et pourtant nous sentons obscurément que Flaubert n'avait pas reçu son ambition. Elle est signifiante, donc elle est libre. Ni l'hérédité, ni la condition bourgeoise, ni l'éducation ne peuvent en rendre compte. Bien moins encore les considérations physiologiques sur le tempérament nerveux. Il ne serait donc aucunement fondé une signification. En un sens, l'ambition de Flaubert est un fait, avec toute sa contingence. Mais en un autre, elle se fait, et notre insatisfaction nous est un garant de ce que nous pourrions saisir, par-delà cette ambition, quelque chose de plus. Quelque chose comme une décision radicale, qui, sans cesser d'être contingente, serait le véritable irréductible psychique.
C'est très compliqué d'essayer de retrouver un auteur dans son œuvre. Parce que son œuvre parle d'autre chose que lui. Par conséquent, il y a là une transmutation très difficile à faire. Flaubert parle de Madame Bovary, parle de Madame Bovary. Ceci dit, latéralement, d'autre façon, par des symboles, on peut arriver à le trouver lui, et le trouver complètement. Mais il ne faut pas croire qu'un détail simplement se rapporte forcément à lui sous prétexte que qui est un peu étrange dans Madame Bovary.
Mais ce qui veut dire que vous n'y découvrirez jamais que la vérité de Flaubert, qui n'est pas la vérité.
La vérité de Flaubert se joue sur la vérité en soi. C'est une particularité, une particularisation à un moment donné, d'une vérité plus générale sur la France de 1850, sur l'Europe, sur le monde. Donc, en principe, si on atteint la vérité de Flaubert, on atteint d'une manière un peu voilée, mais réelle et bien précise, l'ensemble du monde de 1850. On trouve donc, chez chacun, la vérité de tous. Vous comprenez la vérité de tous. Il suffit de penser à vous, d'essayer de vous analyser, pas sous la forme de la méthode freudienne, mais sous la forme que j'ai conçue dans, mettons dans le Flaubert, simplement pour ne pas remonter à l'être néant, pour trouver le monde. Je ne peux pas vous expliquer dans vos détails sans que le monde soit entièrement occupé. Par exemple, le vêtement que vous portez est un vêtement d'aujourd'hui, non pas de Louis XIII. Donc je suis obligé de tenir compte de la manière dont vous êtes vêtu, dont vous êtes coiffé, toutes choses qui appartiennent à notre vérité et qui sont des faits vrais, entièrement vrais. Et de là, je peux aller aussi. Alors à l'intérieur, je peux toucher, d'après vos actes, toucher votre subjectivité, et elle aussi n'a de sens avec les mots mêmes dont elle se sert qu'à notre époque dans un monde entier.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, la voix de Jean-Paul Sartre. C'était en 1975, au micro de Michel Conta. Jean-Paul Sartre qui revient sur donc l'ouvrage qu'il consacre à Flaubert, y compris d'ailleurs sur les pages qu'il lui a consacrées dans L'être et le néant, qui nous occupe cette semaine. On y entend Philippe Cabestan, le désir de Sartre, qui est non seulement de dire quelque chose, dire la vérité d'un être singulier, mais aussi le monde qui l'entoure. Hein. Dans l'archive, il dit bien, en retrouvant Flaubert lui-même à travers ses écrits, il s'agit d'accéder à son monde, la France de 1850, rien que ça.
Alors ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est, je dirais, il faut prendre en compte sa date. Parce que on est bien sûr 30 ans après, un petit peu plus même, 30 ans après L'être et le néant. Et il y a en fait, dans l'œuvre de Sartre, une profonde évolution concernant justement ce projet de psychanalyse existentielle. Dans le cadre de L'être et le néant, ce qui importe au premier chef Sartre, ce qui lui importe au premier chef, c'est la question de l'irréductible, dont il a été question justement dans l'extrait qui a été lu auparavant. Cette question de l'irréductible, c'est pour Sartre un point décisif parce que ça lui permet de distinguer sa psychanalyse existentielle à la fois, je dirais, de la psychologie, on va dire la psychologie traditionnelle, et de la psychologie des profondeurs de Freud. Au sens où ce qu'il va reprocher à la psychanalyse freudienne, c'est de s'arrêter à une sorte d'élément premier qui serait la libido. la libido, les pulsions sexuelles. De même, ici, on a entendu, à propos de Flaubert, il reproche à une mauvaise psychologie de dire, ben voilà, Flaubert, c'est quelqu'un qui était animé d'une ambition grandiose, point. Et puis, on remonte pas plus loin. Alors, l'idée de Sartre, c'est que il est possible de remonter à un véritable irréductible, qui est une sorte d'irréductible absolu, on peut dire. Et ce véritable irréductible, c'est le projet originel, c'est le libre choix que fait un individu singulier de son être au monde. Mais ce qui est intéressant, et là j'en viens à ce propos de 1975, ce qui est intéressant, c'est que, avec le temps, Sartre va de plus en plus minorer, je dirais, la part de la liberté pour s'interroger sur ce que le monde a fait de moi, avant que je fasse quelque chose de ce que le monde a fait de moi. C'est-à-dire qu'il va s'interroger de plus en plus sur le monde, sur l'époque, sur la France en 1850, et il est évident que quand il se plonge dans Madame Bovary, quand il se plonge dans l'œuvre de Flaubert, et qu'il cherche à cerner la personnalité de Flaubert, ce qui le frappe avant tout, c'est le monde de la France de 1850. Et là, il faut, si on veut comprendre, il y a quand même une inflexion dans les différentes psychanalyses existentielles que Sartre rédige, une inflexion qui le conduit à prendre de plus en plus en compte le contexte, alors lui, comme il y a une formation, il y a aussi le matérialisme historique derrière tout cela, et donc il va falloir prendre en compte aussi la structure de la société, les rapports, la lutte des classes, la stratification, la place de l'écrivain au sein d'une société qui est hiérarchisée, etc. Et il prend l'exemple très simple du vêtement. Il dit à son interlocuteur, votre vêtement que vous choisissez, vous l'avez choisi évidemment, mais ce vêtement, vous l'avez choisi en tant qu'homme de 1975.
Est-ce que c'est une manière de renouer avec une forme de déterminisme ?
Alors non, justement, c'est ça, je dirais, l'intérêt de l'entreprise de Sartre, c'est que à aucun moment, je dirais, Sartre ne se renie pas. Et il ne renonce pas du tout à sa conception de la liberté. Simplement, il faut penser la liberté et la nécessité. Il faut les penser ensemble. Mais il ne faut pas du tout, alors ça, à aucun moment, Sartre renonce à l'idée que, fondamentalement, Flaubert, c'est une liberté. Et ça, il le conserve.
C'est ce qu'il reproche aux critiques dont j'ai lu un extrait avant d'entendre la réponse de Sartre, c'est d'avoir fait, à partir du portrait psychologique de Flaubert, une lecture causaliste. Il était comme voilà. Ça, donc voilà. Il est devenu écrivain. Ouais. Ça, c'est ce qu'il ne veut pas faire.
Maintenant, si je puis me permettre, je dirais que si on s'interrogeait maintenant sur les limites de la psychanalyse existentielle sartrienne, je crois que là, on pourrait effectivement quand même se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui, en moi, alors le mot ferait bondir les sartriens, qu'est-ce qui en moi est de l'ordre de l'inné ? Alors évidemment, l'ambition grandiose pour Sartre, c'est pas un trait de caractère. Parce que les traits de caractère, ça n'existe pas pour Sartre. Le génie, vous rappelez cette formule concernant le génie, on ne naît pas génial. Le génie, c'est une solution que l'on trouve dans des cas désespérés. Et donc, c'est une invention, c'est l'œuvre de la liberté. Et donc, il y a chez Sartre, c'est dès qu'il n'y a pas de données premières, il n'y a pas de génie, il n'y a pas d'ambition grandiose qui serait comme ça une donnée, une générosité, une donnée première. Or, ce qui me frappe peut-être, c'est au contraire, c'est à quel point la sphère de la liberté se réduit si on admet que non, il y a des éléments avec lesquels on est et qu'il faut faire sa part. Mais Sartre le refuse. Il faut faire sa part à l'inné. Et peut-être qu'on pourrait ici, dans le cadre de la pensée sartrienne, inscrire cette part de l'inné dans le cadre de la facticité.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire que, bon, nous naissons à une certaine époque, nous naissons bossus ou non bossus, nous naissons, on sera plus ou moins grand en fonction, nous avons un patrimoine génétique, bref, il y a toute une part de, nous ne choisissons pas, c'est de l'ordre de la facticité de l'existence. Et puis, dans cette facticité de l'existence, peut-être qu'il faut ajouter des éléments, et là, je pense aux limites précisément de la psychanalyse existentielle, peut-être qu'il faut ajouter des éléments, certains naissent avec une prédisposition à la mélancolie. Peut-être que certains naissent avec une prédisposition à la schizophrénie. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que quand il s'agit de comprendre Flaubert, de comprendre Baudelaire ou Saint-Genest, ça va. Mais quand on se heurte à des cas qui relèvent, je dirais, de la psychose, on pourrait s'interroger sur la capacité de la psychanalyse existentielle à élucider ces cas qui sont alors beaucoup plus graves, évidemment, et à élucider des conduites psychotiques, à élucider les conduites délirantes, les véritables passages à l'acte, etc. Et là, il me semble que, très honnêtement, parce que c'est un point sur lequel j'ai travaillé, il me semble qu'on voit très vite les limites de la psychanalyse existentielle.
Mais c'est pas ce qui l'intéresse en même temps.
Non.
Vous l'avez dit tout de suite.
Tout à fait.
C'est-à-dire que. Ni de guérir, voilà. Ni de soigner, mais de constater, peut-être non,
mais
d'apprendre.
Indépendamment, même indépendamment de la question de guérir ou soigner, je dirais que comprendre un psychotique, il me semble que là, en fait, la psychanalyse existentielle sartrienne ne nous permet pas de le faire. Et donc là, c'est très grossier ce que je dis, mais ça permet de pointer peut-être une limite aussi. Tant qu'il s'agit de conduites qu'on appelle dites névrotiques, je dirais qu'il n'y a pas de grandes difficultés. La psychanalyse existentielle sartrienne, je dirais, peut satisfaire. En revanche, lorsque on se confronte à des pathologies beaucoup plus graves, parce que Flaubert est un névrosé, mais bon. Déjà, Sartre a bien du mal avec la crise de 1844 lorsque Flaubert s'écroule, hein, cette fameuse crise, Flaubert s'écroule, il dit oui, c'est une conduite hystérique, etc. Déjà là, il n'est pas très à l'aise. Mais quand on se confronte à des pathologies beaucoup plus graves, à cela, il me semble que la psychanalyse existentielle n'est pas de grande utilité.
A-t-elle fait école, justement? Y a-t-il eu une suite, une postérité à la psychanalyse existentielle
après ce
livre?
Il y a eu un livre intéressant de Betty Cannon sur la psychanalyse existentielle, qui date maintenant, qui a peut-être une vingtaine d'années. Mais à ma connaissance, il n'y a pas véritablement de postérité à cette psychanalyse existentielle. Pour tout dire, je m'occupe d'une association qui est une association qui est assez à distance, qu'on appelle c'est une école française de, on va dire, d'analyse existentielle. Mais bon, Sartre est une référence parmi d'autres. Vous me dites que Binswanger, Tellenbach, etc.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. On connaît peut-être aussi le nom de Binswanger, qu'on associe à ce qu'on appelle l'analyse existentielle, qui s'inspire plus directement d'Heidegger que de Sartre, d'ailleurs. Sartre n'appartient pas à ce courant-là. C'est encore autre chose.
C'est-à-dire que ce courant, il n'est pas très défini. Donc, c'est difficile de dire il n'appartient pas ou il appartient.
Qu'est-ce que c'est l'analyse existentielle, alors, puisque vous faites partie du...
Oui, alors, si je dirais qu'il s'agit... effectivement, à partir fondamentalement de Heidegger, de être et temps, de réfléchir sur les différentes pathologies en tant que possibilités existentielles. Alors, Sartre est très proche, en ce sens où lui-même se confronte avec ce qu'on appelle la névrose, et il essaye de comprendre. Mais évidemment, là, on s'ouvre tout un champ de recherche qui est pour le moment un champ de travail, de recherche, sur les possibilités d'une recompréhension des pathologies à partir d'une anthropologie et d'une ontologie que Sartre partage d'une certaine manière, dont Sartre partage les principes, puisque on part bien d'une existence, d'une liberté en situation. Et donc là, on est bien, je dirais, sur un même terrain.
S'agit-il de comprendre? En fait, c'est quand même le mot qui revient souvent, oui. Que ce soit chez Sartre ou même, oui, à travers votre propre voix, Philippe Cabestan. Il s'agit de comprendre, peut-être plus que de savoir ou de faire la vérité sur un sujet. Il s'agit de comprendre comment il agit. On est ici peut-être plus dans une perspective qui serait celle de Spinoza, qui pourtant ne croyait pas en la liberté. Il disait que la liberté, c'est l'ignorance des causes qui nous détermine. Si, chez Sartre, liberté absolue il y a, enfin liberté incontestée, est-ce qu'on peut pas dire quand même qu'il y a tout un travail de compréhension à effectuer de manière à pouvoir élucider ce de quoi un sujet est fait?
Oui. Alors, il s'agit de comprendre au sens où, c'est au début où on disait de déchiffrer, ouais, d'interpréter, de dégager le sens avec l'idée que, au fond, nos gestes, nos conduites, nos comportements trouvent une signification profonde à partir du choix que nous sommes. Et donc là, on a vraiment une perspective herméneutique, mais en même temps, et c'est ce que souligne Sartre dans son interview, il s'agit aussi de dégager la vérité d'un individu, la vérité d'une époque.
C'est surprenant de voir ce terme, d'ailleurs.
Oui, et donc, je dirais que cette herméneutique conduit à une... s'appuie sur une connaissance des structures sociales, des conditions historiques dans lesquelles un individu surgit et conditions dans lesquelles il doit construire sa propre existence et choisir son être au monde. Et donc, j'opposerai pas connaissance et compréhension.
Et donc, il y a une vérité de l'individu, on peut dire.
Il y a une vérité possible qu'on peut trouver. Il y a une vérité de l'individu qui ultimement se trouve dans son projet originel. Mais un projet originel, encore une fois, qui est sans doute libre, mais qui, ne l'oublions pas, parce qu'on a trop tendance à accorder toute la place à la liberté chez Sartre et à minorer ce sur quoi il s'est longuement interrogé dans la critique de la raison dialectique, c'est-à-dire sur la nécessité, cette nécessité à laquelle nous nous sommes confrontés et avec laquelle il nous faut vivre.
Comme par exemple le fait d'être bourré de complexes, c'est ce que chante Boris Vian.
Elle s'appelle Marie-France, elle a tout juste 20 ans et elle vient d'épouser un inspecteur des finances, un jeune homme très brillant qui a beaucoup d'espérance. Mais depuis son mariage, chacun dit en la voyant bourrée de complexes, elle a bien changé. Faut la faire psychanalyser chez un docteur pour la débarrasser de ses complexes à tout casser, sinon elle deviendra cinglée. Elle s'est inscrite au Racing pour y apprendre à nager. Les têtards, tôt ou tard, ont fini par l'inspirer. Et là-bas, un beau soir, elle a enfin rencontré un sportif, un master, un costaud bien baraqué. Mais bourré de complexes, et tout a changé. Car il est venu vivre chez eux et le coquelicot soudain s'est senti mieux. Ayant repris toute sa vigueur, il a enlevé le maître nageur. Adieu les complexes, fini les complexes. Elle a changé de sexe, tout est arrangé. Ce qui est assez parisien.
Tout est arrangé, c'est Boris Vian qui le chante. Un grand merci à vous Philippe Cabestan d'être venu parler de Sartre, l'être et le néant, et donc la psychanalyse existentielle sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est grand temps de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, c'est un événement particulier qui va vous occuper. Nous avons appris hier le décès du philosophe Étienne Tassin, qui était un habitué de ce micro, que nous avons beaucoup reçu à ce micro. Cette nouvelle nous a beaucoup émus et je pense que vous aussi, chers auditeurs, serez triste de l'apprendre, et donc vous avez décidé de lui rendre hommage aujourd'hui, Géraldine.
Oui, exactement, Adèle. Donc on a appris la disparition du philosophe Étienne Tassin. C'était samedi 6 janvier qu'il est décédé. Il était venu plusieurs fois à ce micro, récemment pour évoquer la condition migrante, thème qui lui tenait à cœur dans le contexte actuel des crises migratoires. Et il était venu plusieurs fois pour présenter la pensée politique d'Anna Arendt. Il nous parlait pour la dernière fois, le 11 février 2016, de sa conception de la liberté.
Ce monde nous a toujours déjà précédés et a déterminé ce que nous sommes, ce que nous pouvons être et l'univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. La question n'est donc pas de penser que la liberté se construit contre cette appartenance et cet attachement. Elle consiste à penser que dans ce monde-ci, qui est beaucoup plus vieux que nous et qui nous précède et qui définit l'ensemble des possibles pour nous, nous sommes capables de commencer quelque chose de nouveau ou pas. Est-ce que nous restons justement prisonniers d'une tradition ? Est-ce que nous sommes dans la reconduction, la répétition du passé, ou est-ce que nous nous posons dans le monde comme ceux qui peuvent commencer quelque chose qui est absolument radicalement nouveau? Et c'est ça son idée de la liberté, le commencement de quelque chose qui n'existait pas auparavant. C'est le monde qui nous offre la possibilité d'être des commenceurs, ceux qui allons commencer quelque chose de nouveau.
Professeur à l'université, spécialiste d'Arendt, dont il fut l'un des premiers en France à lui consacrer une thèse, il occupait une place incontournable dans le champ de la philosophie politique, une place discrètement essentielle, comme l'explique le philosophe Mathieu Pottebonneville.
Étienne Tassin était un immense commentateur de Hannah Arendt, c'est l'un de ceux qui ont su désenfouir dans l'œuvre de Arendt la catégorie de l'action politique, à la fois comme catégorie critique vis-à-vis de ce qu'est devenu l'action dans notre temps. Je vais venir à Arendt comme levier d'une critique de toutes les formes de dictature de la production, de la gestion, du gouvernement, et puis l'action au sens de l'irruption du politique, du risque du politique, et de ce que le fait de se mettre à agir peut tisser et entretisser entre les individus, entre les citoyens. Il y a un moment où la philosophie de l'action doit céder la place à une forme d'expérience de l'action, d'expérience de la confrontation avec le terrain. Il faut absolument lire et lire en parallèle le chapitre de son livre « Le maléfice de la vie à plusieurs » sur la condition migrante et la question du cosmopolitisme aujourd'hui. Et puis cette série de textes incroyables publiés par Étienne Tassin et Camille Louis sur Mediapart autour de la situation des migrants à Calais.
Auteur notamment donc des livres « Un monde commun pour une cosmopolitique des conflits » que l'on peut trouver au Seuil et « Le maléfice de la vie à plusieurs, la politique est-elle vouée à l'échec ?» paru chez Bayard. Étienne Tassin travaillait donc sur la condition migrante, d'où cette série de textes « La jungle et la ville » dont parle Mathieu Pot-Bonneville, coécrit avec la philosophe et dramaturge Camille Louis. Elle raconte de son côté comment est née avec Étienne Tassin cette recherche sur le terrain.
On a eu le besoin et le désir de se déplacer, en fait, de déplacer notre séminaire à Calais et de rencontrer la situation au moment où la jungle était encore existante. Et ça a été un tournant déterminant pour tous les deux, puisque je pense que lui comme moi, on a une conviction que la philosophie se pratique sur le terrain ou en lien à des situations, et que réfléchir sur la condition migrante telle qu'on le faisait sans être confronté non simplement aux personnes qui font ces trajets de vie, mais à tous les acteurs qui les accompagnent, nous semblait complètement absurde, en fait, puisque c'est dans ces situations-là que tout se pense, que tout un vocabulaire politique et philosophique se reconfigure.
De cette expérience à Calais et à Dunkerque, Camille Louis raconte aussi ce qui les a frappés avec Étienne Tassin, ce qu'ils y avaient perçu de l'édification du monde commun à partir de cette scène cosmopolitique.
Ce qui nous a beaucoup frappé à Calais, c'est la manière dont des personnes, en fait, étaient complètement renfermées par des barrières construites, fictives, en fait, et qu'à partir du moment où une personne quelconque rencontre un exilé et se rend compte de la richesse de cette personne, un chemin de possible s'ouvre, et donc on avait envie de se mettre au travail de la création de ces rencontres improbables entre Calaisiens multiples, exilés, associatifs, ce qui en fait est pour nous un point manquant à la fois à Calais et ailleurs, de comment est-ce qu'on reconstruit des espaces politiques, c'est-à-dire des espaces de rencontre d'hétérogénéité. Et donc on a mené tout un travail là depuis plusieurs mois où on est allé à la rencontre de ceux qu'on appelait les voisins bienveillants, toutes ces personnes qui un jour dans leur vie ont rencontré un jeune érythréen, un égyptien, et puis se sont fédérés un petit peu dans ces actes-là de solidarité. Donc on avait envie que ces gens-là aient la parole et qu'on puisse faire leur histoire, parce qu'elle est nulle part, elle est ni dans les récits politiques d'exclusion, ni même dans les récits médiatiques catastrophiques ou victimisants. Il y a un ensemble pour nous de petits héros dont il faut raconter l'histoire et dont il faut que eux-mêmes se racontent leurs histoires.
Ces textes d'Étienne Tassin et Camille Louis, « La jungle et la ville » sont donc disponibles sur Mediapart. Ils devraient prendre, on l'espère, la forme d'un ouvrage cette année. Ils prendront en tout cas la forme d'une performance, ça s'appelle « La fabrique du commun ». Ce sera fin mars à Calais et c'est une belle manière de poursuivre le geste inauguré, commencé, comme le dirait Arendt, par Étienne Tassin.
Oui, je crois aussi qu'il venait de finir un manuscrit, de rendre un manuscrit, donc on pourra lire un livre de lui dans quelques mois, ce qui sera une manière de ne pas l'oublier. Dans l'extrait que vous avez diffusé, Géraldine, il disait « C'est le monde qui nous offre la possibilité de commencer quelque chose de nouveau. Espérons que là où il se trouve, il puisse continuer ce qu'il avait commencé ici, parce qu'il avait encore tant à dire et tant à faire. »
On peut retrouver aussi plusieurs entretiens qu'il avait donnés à ses micros. On va mettre les liens sur le site du journal de la philo pour écouter la pensée d'Étienne Tassin, donc sur Hannah Arendt, et puis aussi sur la condition migrante.
Voilà, autant de choses qu'on va mettre en place pour ne pas l'oublier. Merci Géraldine. Votre chronique et cet hommage à Étienne Tassin est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et merci à Claire Perryman-Holt qui a préparé cette émission, ainsi que Louis Servet, David Pargamin, Marianne Chassor, Géraldine Mosna-Savoie bien sûr, Thomas Beau qui a préparé cette semaine, Olivier Bétard qui réalise cette semaine, Élise Leu qui est à la prise de son. Non loin d'elle se trouve Bruno Gagnère-Fontani qui n'est jamais très loin, Vincent Schmitt est à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de cette série sur l'être et le néant de Jean-Paul Sartre. Demain, une question, existe-t-on pour autrui? Et quelle question! Ce sera le philosophe Vincent de Corbitaire qui viendra y répondre. Pour réécouter cette émission, rien de plus simple, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne ou bien la télécharger, la podcaster, afin de l'écouter où vous voulez. Nous vous donnons également rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter, où nous mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour, et attendons vos remarques et commentaires. Rendez-vous demain, à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.